pour investir, le placement à suivre.
Et on est avec Arnaud Gian de BlackRock. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors, on le disait en sommaire, BlackRock, grand expert des taux, grand expert des fonds. Donc là, double expertise, on va parler des fonds obligataires. Oui, pourquoi ? Parce que ça fait plus de 10 ans que ça faisait plus rien. Et que là, pontification de la courbe des taux, on vous en parle beaucoup, hein, différence entre taux courts et taux longs, ça fait d'ailleurs la solidité du secteur financier, du secteur bancaire notamment, mais ça rend beaucoup plus intéressant les fonds obligataires en ce moment. Et donc, quand on cherche à diversifier, ça devient non seulement le fixed income, comme on dit, ça devient quelque chose qui assure un support, mais qui devient dynamique en ce moment. Et c'est peut-être le moment de revoir les choses sous l'œil de l'actualité.
Tout à fait. En fait, on retrouve les caractéristiques du fixed income et on retrouve un peu l'âge d'or du fixed income. Ça, c'est comme vous l'avez indiqué, 10 ans, qu'on n'était pas dans un scénario dans lequel on a ce qu'on appelle des taux réels. Donc, en fait, qui est une sorte de gain de pouvoir d'achat positif à des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis environ 10 ans. On avait effectivement une petite parenthèse après le Covid. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2022, il y avait une correction. Ouais. Et avec en fait des taux qui étaient assez attractifs sur la partie courte de la courbe.
Oui, voilà.
Et qui en fait était une parenthèse, entre guillemets, le temps de normaliser le niveau d'inflation. Mais on a de l'inflation qui est relativement maîtrisée, en tout cas pour l'instant. On a des taux qui en fait se sont pontifiés et qui sont plus intéressants, et donc la différence entre les deux est extrêmement attractive. On retrouve en fait cet âge d'or. En fait, je vais faire un tout petit peu de pédagogie parce que souvent
on oppose
les actions et les obligations
dans
une construction de portefeuille, et on dit les obligations c'est moins risqué que les actions. Et 2022 nous donne tort sur cette théorie. Ouais. Et je voulais juste réexpliquer en fait que c'est en fonction de la maturité de ses engagements. Si par exemple je vous prête de l'argent, Antoine, à 30 ans, le risque est à peu près similaire à ce qu'on co-investisse et que je prenne part à votre destin, entre guillemets.
Oui, c'est à peu près
si,
ça.
Par contre, je vous prête pour un mois, ça n'a plus du tout le même risque porté.
La prime de risque n'est pas la même, bien sûr.
Effectivement. Et donc, du coup, en fait, on a sur cette partie très longue de la courbe, les engagements très longs, on a un risque qui est assez important. On a une volatilité qui est assez forte sur les taux depuis cet épisode de 2022.
Bien sûr.
Et donc, on n'est pas en train de dire que cet âge d'or, il doit être positionné sur la partie la plus risquée.
Ouais.
Par contre, quand on regarde le milieu de la courbe, quand on regarde des engagements plutôt à 5 ans, qui en fait représentent l'essentiel de ce marché obligataire, puisqu'en général, on emprunte sur des durées allant de 5 ans à 10 ans, mais on est à peu près dans ces eaux-là, on se retrouve en fait avec une volatilité qui est maîtrisée et des rendements qui sont très intéressants. Et donc, quand on fait le rapport entre le rendement et ce risque-là, on est sur quelque chose de très attractif par rapport à toutes les autres catégories, et donc un attrait qui est très important en ce moment.
Malgré tout, c'est vraiment, encore une fois, la maturité, la qualité de la dette qui va tout faire, dans le sens où on pourrait se dire, oui, les rendements deviennent attractifs, mais enfin, on a quand même une sacrée volatilité. Sur le 10 ans français, par exemple, on a eu 10 points de base de volatilité sur la séance d'hier. Ça s'agite, et c'est là aussi que revient au premier plan votre observation sur faut pas opposer action et obligation. Ça peut être un marché volatile, mais il faut être sélectif sur la maturité.
Exactement. La maturité, en fait, va dicter le niveau de risque associé à l'investissement. Et donc, disons, on est déjà sur un temps assez long en termes de risque. Donc j'évoquais 5 ans, en fait on appelle ça le belly of the curve.
Oui, c'est ça.
Vraiment le ventre mou, j'ai envie de dire. Et en fait, c'est assez intéressant parce que vous parlez de la partie de l'OAT, du 10 ans français. Et en fait, quand on regarde le monde des entreprises, donc on appelle ça le corporate bond dans l'univers obligataire, et les emprunts d'État, on avait toujours en fait les emprunts d'État qui étaient plus ou moins la partie sans risque, parce que effectivement avec capacité de remboursement plus attractive. Et en fait, aujourd'hui, on peut débattre de cette partie-là. On a des entreprises qui sont mieux notées que certains émetteurs d'État.
Tout à fait.
Et en fait, quand on regarde la partie entreprise, et notamment entreprise de bonne qualité, on a depuis le Covid, Et depuis la remontée des taux à court terme, des entreprises, marché des entreprises, qui est beaucoup plus saine que par le passé. Donc, le niveau de levier à l'intérieur de l'entreprise est beaucoup plus faible. Mmh. Donc, on a des entreprises qui sont de meilleure qualité, qui ont un bilan beaucoup plus solide. Et donc, lorsqu'on va essayer d'extraire en portage du rendement, et donc dans lequel on a ajouté à la partie sans risque un risque de crédit, mais qui est très maîtrisé.
C'est limité, oui.
On arrive en fait à avoir un investissement encore plus attractif. Donc on va privilégier aujourd'hui plutôt ce gisement des entreprises, donc des émissions d'entreprises de bonne qualité et même dans une certaine mesure à haut rendement, avec cette notion de je vais pouvoir avoir un rendement supérieur et un rendement relatif au risque pris beaucoup plus intéressant.
D'accord, mais c'est justement ce que vous dites sur le haut rendement est intéressant, le high yield comme on le dit, parce que là aussi il y a des flux, c'est une classe d'actifs qu'on regarde plus comme un investissement qu'on fait vraiment vraiment sur le côté et sans s'y engager trop parce que voilà les courbes sont très fortes mais très risquées. Non, le high yield on l'arbitre au milieu d'autres actifs obligataires pour faire une moyenne de performance et ça marche.
Ça marche. En fait, il y a donc deux phénomènes. Il y a le premier phénomène, donc j'expliquais en fait, les entreprises ont déjà un niveau de levier qui est plus faible et donc du coup, en termes de risque, elles sont elles beaucoup plus maîtrisées que par le passé. Et il y a un deuxième aspect, c'est que ce type d'entreprise emprunte sur des durées beaucoup plus courtes que les États ou que les entreprises de très grande qualité et de qui sont très grosses par nature, avec des cycles de vente beaucoup plus longs. Et donc, du coup, on a le risque de taux que j'évoquais en début, qui est assez maîtrisé, puisqu'on parle d'horizon de prêt.
Oui.
On parle de prêt d'environ 3 à 4 ans, en moyenne, sur ce haut rendement. Et en plus de ça, on a des entreprises qui se sont solidifiées. Et en fait, c'est assez intéressant parce qu'on a, si vous voulez, quand on parle de fonds ou ETF, on va avoir la catégorie notamment des ETF qui sont assez ciblés. Donc, on va pouvoir investir sur, donc j'évoquais, du 3 à 5 ans, en fonction de la maturité. On va pouvoir investir sur une certaine devise. On va pouvoir investir sur certaines typologies d'entreprises. Et on a aussi des ETF actifs, flexibles, qui ont beaucoup d'attrait et dans lesquels, en fait, j'ouvre mes chakras, j'ai envie de dire, et j'augmente en fait la boîte à outils dans lesquels on a un marché classique qui est plutôt emprunt d'État et emprunt d'entreprise, et je vais pouvoir faire un peu de haut rendement. Je vais pouvoir faire aussi de la dette émergente, très très bien fonctionnée l'année dernière,
tout à fait.
Qui en couple rendement risque est quelque chose d'additif, ou alors des segments type sécurisés, donc on parle de CLO, donc ça c'est très technique.
Ouais.
Donc je dis pas en fait qu'il faut pouvoir arbitrer et aller de l'un à l'autre. Mais en fait, dans ces gestions actives très flexibles, on va pouvoir abaisser le niveau de risque en allant chercher de la diversification au sein de tout l'univers de ce marché-là et pouvoir viser un certain rendement qui, aujourd'hui, est très attractif par rapport au niveau de l'inflation et par rapport à la croissance attendue dans notre zone euro.
Mais oui, là aussi, la diversification, c'est le secret, mais on n'en sort pas et c'est juste d'un mot. Est-ce que vous sentez une forme de friction sur les marchés de taux en ce moment, issue d'éventuelles inquiétudes autour de ce phénomène de la dette privée aux États-Unis, ou est-ce que pour l'instant il n'y a pas de signe tangible du fait que le marché se crispe ou que la demande se crispe sur les produits obligataires?
Non, on a effectivement deux marchés qui sont très très distincts. Le marché américain est quand même très différent du marché européen.
On est bien d'accord.
Et au-delà de ça, en fait, le phénomène qu'on a pu voir sur le marché du crédit américain, c'est effectivement amplifié en termes de demande de vente, mais pas forcément vraiment des crispements comme on l'appelle du marché professionnel. Donc en fait c'est plutôt en fait comme souvent en fait le marché des particuliers qui du coup au travers de certaines données et certaines news vont pouvoir réagir ou des fois surréagir, mais tout est relativement sous contrôle, même aux États-Unis. Et en Europe, on n'a absolument pas du tout la même configuration.
C'est l'inconvénient, mais aussi l'avantage des boîtes noires, c'est que ça reste dans la boîte. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle un petit peu ce phénomène. Merci infiniment, Arnaud Gian de BlackRock. Un point très, très complet sur les fonds taux, les fonds obligataires à retrouver, évidemment, en replay et en podcast. C'est un outil essentiel de diversification en ce moment, lui-même diversifié à l'intérieur.